Un soldat russe, hier, à Prague, a été tué d'un coup de feu. Le général soviétique, commandant de la ville, a publié un ordre du jour demandant aux autorités tchèques de prendre les dispositions nécessaires, je cite, « pour punir les bandits terroristes et pour éviter de nous obliger à prendre des mesures de représailles ». Un général commandant de la ville, un ordre du jour, des terroristes, des représailles. Comment ne pas se rappeler que ces mêmes mots sinistres, dans une autre langue, s'étalaient sur nos murs et sur les murs de Prague il y a 28 ans. Prenons garde pourtant. Comme vous, peut-être, je me laisse trop facilement entraîner à des comparaisons comme celle-là, qui sont parfois trompeuses. En voici une autre, entre les événements d'aujourd'hui et ceux de cette époque, à peu de choses près. Le 15 mars 1939, Adolf Hitler convoquait à Berlin le docteur Émile Hacha, président de la République tchécoslovaque, et le recevait en grande pompe. Après 3 heures à peine de conversation, si l'on peut employer ce terme, coupé d'un évanouissement du visiteur, celui-ci s'inclinait devant le diktat du conquérant. Quelques heures plus tard, l'Allemagne occupait le pays, la Pologne et la Hongrie se partageaient quelques restes. L'homme qui aujourd'hui a remplacé le docteur Hacha, le général Ludwig Svoboda, a été lui aussi invité et reçu avec honneur dans la capitale de l'envahisseur. La Tchécoslovaquie est de nouveau occupée. La Pologne, la Hongrie, l'Allemagne, de l'Est, sont de la fête. Mais le général Svoboda ne s'est pas effondré à la troisième heure. Il a discuté pied à pied pendant 4 longues journées. Il a imposé que prit place à son côté M. Alexandre Dubček, l'homme que détestent les Russes. Un compromis, affirme-t-on, est prêt. Bref, jusqu'à présent, du moins, les difficiles négociations de Moscou ne ressemblent pas à la terrible entrevue de Berlin. Beaucoup de bruits ont couru depuis dimanche au sujet de ce compromis. Je vous dirai franchement que personne n'en connaît les termes. Les murs du Kremlin sont épais et ses hôtes peu loquaces. En tout état de cause, il me paraît absolument impossible que les Soviétiques aient abandonné leurs prétentions. Mais pour les Tchèques, chaque concession arrachée à leurs adversaires peut être d'une certaine façon un succès. Un succès, même s'ils doivent mettre un frein, seulement un frein, et non pas mettre fin au grand sursaut de ce peuple vers l'indépendance et la liberté. Hitler imposait, les hommes de Moscou feignent de discuter. Prodigieux dialogue. L'URSS, c'est 200 millions d'habitants, un territoire qui s'étend du Pacifique à la mer Noire, la seconde puissance mondiale, un arsenal atomique. La Tchécoslovaquie, c'est 14 millions d'habitants. Un manteau d'arlequin taillé il y a 50 ans dans les dépouilles de l'Empire austro-hongrois. Et pourtant, ce nain a tenu tête au mastodonte. C'est qu'il est plus difficile à M. Brejnev qu'à Hitler d'ordonner aux chars de son armée d'écraser un peuple tout entier debout et résolu. Pas une voix qui s'élève dans ce petit pays pour dire « Assez, à quoi bon, inclinons-nous » Et puis, je suis persuadé que cela compte plus qu'on ne croit. C'est le parti communiste tchécoslovaque qui a fait sa révolution. Si peu sensible qu'ils soient à la fraternité quand leurs intérêts commandent, les soviétiques ne peuvent complètement l'ignorer. Si M. Brejnev, l'homme du parti, n'a pas tué en lui tout sentiment, c'est de la honte qu'il doit ressentir aujourd'hui. Enfin, si la résistance de la nation tchécoslovaque est le roc auquel se heurtent, jusqu'à présent, les occupants russes à la mauvaise conscience, la réprobation des frères communistes à travers le monde a aussi quelque importance. En France, par exemple, chaque jour qui passe accentue l'opposition du parti à l'agression soviétique. Hier soir, M. Valdez-Crochet déclarait « Nous pensons que l'intervention militaire en Tchécoslovaquie est une faute grave, nous le disons. » Il ajoutait encore, M. Valdez-Crochet, « Nous considérons comme fondamentaux le respect de la souveraineté et de l'indépendance de chaque pays, le respect de la liberté de détermination de chaque parti communiste. Nous continuerons à appliquer résolument ce principe et à le défendre dans le mouvement communiste international. » Sans doute, ces affirmations n'auraient guère compté pour les dirigeants soviétiques s'ils avaient pu liquider en quelques heures l'affaire tchécoslovaque. Mais il se trouve que ce n'a pas été le cas. Dans ces conditions, il ne peut être absolument indifférent à M. Brejnev que tous les partis communistes, à l'exception du Coréen, du Vietnamien, du Cubain et du Chilien, fassent bloc dans l'opposition. Pratiquement, l'Union soviétique se trouve dans la communauté dont elle assume la direction idéologique, seule, en compagnie de 4 satellites. J'ai lu dans plusieurs journaux, et sous des signatures plus autorisées que la mienne, des articles annonçant le retour du stalinisme en URSS. Peut-être. Encore une fois, les négociations de Moscou nous éclaireront sur ce point lorsque nous en connaîtrons les résultats. Pourtant, le stalinisme, cela signifie un homme et une époque. Ce dictateur féroce dont des Russes m'ont confié, il y a un peu plus d'un mois encore, qu'il était responsable d'autant de morts que la dernière guerre, 20 millions, Staline n'a jamais commis, en revanche, la moindre imprudence militaire. Il se garda bien de lancer ses troupes en Yougoslavie quand ce pays se libéra de sa tutelle. Jamais il n'engagea un seul fantassin soviétique en Corée. À cette époque, il dirigeait d'une main de fer les partis communistes du monde entier qui chantaient en chœur ses litanies. Mao Tse-tung lui-même maniait l'encensoir. Il fallut attendre M. Khrouchtchev, le brave et souriant Nikita, avec son visage épanoui de paysan et sa bouche pleine de proverbes, pour que les armes russes viennent réprimer dans le sang la révolte hongroise. Je ne sais si l'URSS revient au stalinisme, mais n'est pas Staline qui veut. De toutes les épreuves qui ont accablé depuis une semaine M. Alexandre Dubček, la plus lourde fut sans doute le discours qu'il a adressé hier au peuple tchécoslovaque. Les répétitions, les silences, les hésitations, la voix blanche, fléchissante, tout cela trahissait l'extrême fatigue, l'affreux sentiment de solitude, presque le désespoir. Cet homme, qui était depuis 8 mois le symbole de la libération et dont le retour était salué par les cloches de toutes les églises, rapportait de Moscou les chaînes dont il avait espéré délivrer son pays. Sans doute, le compromis du Kremlin contient-il pour la Tchécoslovaquie des éléments positifs, et l'on peut dire que la résistance de cette nation a arrêté le bras qui pouvait l'écraser, et si elle avait manifesté quelque faiblesse ou quelque imprudence. Mais les verrous sont posés. Les dirigeants du pays et du Parti communiste restent en fonction. Mais pour faire quoi? Les troupes occupantes évacueront le territoire. Mais quand? L'URSS et ses alliés n'interviendront pas dans les affaires intérieures de la Tchécoslovaquie. Mais comment soutenir une telle affirmation quand ce pays est sous la botte? J'ignore, comme vous, ce que l'avenir réserve à M. Dubček et à son peuple qui, enfermé depuis tant d'années derrière les barreaux, croyait proche la délivrance. Je crains bien, en tout cas, que ne soient évanouis les espoirs que beaucoup plaçaient, en France notamment, dans une démocratie socialiste. J'ai lu hier un livre écrit par un Tchèque, Pavel Tigrid, et qui s'intitule « Le printemps de Prague ». Je crois, grâce à ce document, avoir compris beaucoup de choses. Lorsque ceux qu'on appelait les staliniens, au premier rang desquels figurait M. Antonin Novotny, furent éliminés en janvier dernier, la nouvelle équipe, celle de M. Dubček, prit une décision d'une incalculable portée. Elle supprima pratiquement la censure, estimant à bon droit que la liberté d'expression était le critère fondamental de tout État vraiment démocratique. Ce fut le défoulement, mais pas seulement cela. Intellectuels en tête, les Tchécoslovaques se mirent à travailler dans une fièvre et une exaltation extraordinaires à bâtir la société future. Le Parti communiste, là-bas comme ailleurs, avait toujours fonctionné selon les règles aussi anciennes que l'Union soviétique. Les dirigeants décident souverainement et leurs décrets descendent tous les échelons de la hiérarchie sans être soumis à l'épreuve de la critique. Les libéraux exigèrent qu'on suivît le processus inverse, de bas en haut, et qu'à tous les niveaux, la discussion fût libre. Une autre idée ne tarda pas à voir le jour. Plutôt que d'admettre, au sein du Parti communiste, de ce parti qui se confond avec l'appareil d'État, l'existence de protestataires, c'est le terme employé, pourquoi ne pas autoriser la création d'un autre parti, de caractère socialiste lui aussi, qui remplirait en quelque sorte une fonction d'incitation, d'émulation, de critique, mais qui n'aurait pas pour objectif de s'emparer du pouvoir. Cette conception, fort irréaliste, il faut le reconnaître, M. Dubček ne la partageait pas. Fidèle au schéma communiste, il considère que la disparition de la propriété individuelle des moyens de production et d'échange engendre une société sans classe et par conséquent un seul parti. Mais l'idée de second parti faisait son chemin si vite et si bien qu'elle donna inévitablement naissance à une autre. Le Parti communiste tchécoslovaque représente 20% de la population du pays. 4 citoyens sur 5 ne sont donc représentés par rien, en tout cas pas par ce Front national, ce reliquat squelettique de formation jadis tolérée et mise en tutelle. Pourquoi ces 100 partis, pour reprendre la terminologie utilisée à l'Est, pourquoi ces indépendants ne s'exprimeraient-ils pas dans un parti d'opposition? Le mot était lâché. Bien entendu, M. Dubček était encore moins favorable à cette idée qu'à la précédente, mais il ne pouvait empêcher qu'elle se propageât. Et puis, pourquoi un seul parti et non plusieurs? Certes, les communistes, M. Dubček en tête, rejetaient catégoriquement cette solution. Mais aurait-il pu, à la longue, y faire obstacle? Sans opposition, comment établir un contrôle du pouvoir? La liberté d'expression est inséparable de la liberté d'opinion et par conséquent de la liberté électorale. Une opposition et même des oppositions, des élections. La Tchécoslovaquie, ayant subi pendant 20 ans la dictature, j'ajoute du prolétariat pour rester fidèle à la terminologie, et s'apprêtant à entrer dans l'ère de la démocratie socialiste, était au contraire tout simplement en train de glisser à la démocratie parlementaire, à la société bourgeoise. Vous direz peut-être, selon votre tendance, que c'était un risque ou une chance à courir. Et pourquoi un tel régime de liberté politique serait-il incompatible avec un système de collectivisme économique? Sans doute, mais vous me permettrez d'être sceptique. Les communistes le sont aussi, du reste, puisqu'ils n'acceptent pas de ne pas donner à leur parti le rôle dirigeant. Cette conception est d'ailleurs celle des Roumains, qui, s'ils manifestent quelque indépendance en politique étrangère, ont toujours évité d'affaiblir un parti puissant, fortement centralisé et hiérarchisé, de type stalinien. Les soviétiques, en tout cas, n'ont pas voulu laisser se développer l'expérience tchécoslovaque. Pour eux, voyez-vous, ils ne faisaient guère de doute que par un processus inéluctable, amorcé par le rétablissement de la liberté d'expression, la Tchécoslovaquie finirait par abandonner le régime, puis le camp socialiste, et entraîner à sa suite les pays satellites de l'URSS. Aussi, l'une des rares déclarations un peu précises que M. Dubček ait prononcées hier dans son discours pathétique fut-elle pour annoncer, je le cite, « des restrictions exceptionnelles à la liberté d'expression ». Mais en agissant comme ils l'ont fait, les Russes ont laissé échapper un terrible aveu. S'ils considèrent que la liberté menace le socialisme, force est donc de croire que le socialisme ne peut se maintenir que par la dictature. C'est cela que les dirigeants soviétiques viennent d'affirmer à la face du monde et que M. Dubček, tous ses rêves brisés, a confirmé hier devant ses compatriotes en ce triste été de Prague. La Tchécoslovaquie a cessé de fournir aux journaux la matière exclusive de leurs manchettes. Ce pays retourne à l'obscurité d'où l'avait pour un temps fait sortir le soleil de la liberté. Nous allons, nous journalistes, passer, comme on dit, à autre chose. Pourtant, avant de tourner la page sur ce chapitre de l'histoire qui, avant de prendre fin dans la tragédie, avait suscité tant d'espoir, je voudrais, si vous le permettez, vous faire part de quelques réflexions. Je me suis demandé, tout au long de cette semaine, si les dirigeants de l'Union soviétique auraient pu agir autrement qu'ils ne l'ont fait. Je vous disais, avant-hier, ma conviction que la Tchécoslovaquie glissait inéluctablement vers un régime de démocratie parlementaire de type occidental. Cette conviction, je l'avais acquise à la lecture de documents qui ne sont nullement secrets. Il s'agissait d'écrits publiés et de discours prononcés là-bas. Une telle révolution, dont on a pu voir quelle était la puissance émotionnelle, se serait tôt ou tard communiquée aux nations voisines. De proche en proche, le système communiste tout entier en eût été ébranlé. Et tout cela pourquoi? Pour une simple et unique raison. Un jour, M. Alexandre Dubček a rétabli dans son pays cette petite chose qui nous semble à nous aussi naturelle que l'air que nous respirons et qui s'appelle la liberté d'expression. La seule véritable exigence des Russes, d'ailleurs, vous le constatez, c'est le rétablissement de la censure à tous les niveaux. Pourtant, direz-vous, La libéralisation progressait depuis la mort de Staline, avec des à-coups, mais elle progressait. On n'assassine plus en Syrie, dans les caves des prisons soviétiques. Et je ne serais pas assez sot ou assez cynique pour dire que cela n'a pas d'importance. Monsieur Khrouchtchev n'est pas couché sous quelques pieds de terre. Il coule des jours paisibles et mélancoliques dans son petit appartement. Et puis, la libéralisation, c'est aussi de nouvelles méthodes d'organisation économique qui prennent en considération les consommateurs. C'est le développement des échanges avec les pays capitalistes. Certes, certes, mais les intellectuels qui prétendent s'exprimer librement se retrouvent vite comme Siniavski et Daniel au cachot. Le technicien qui veut créer une économie de marché ne franchit pas la ligne au-delà de laquelle le dogme, ciment du système, est menacé. L'écrivain, lui, l'a franchi cette ligne. Alors, tir à vue. Le communisme est un édifice auquel on peut ajouter ou retrancher quelques marbres ou quelques stucs, mais qui s'écroule si l'on touche à ses pierres de soutènement. De toutes les menaces, la principale est la liberté d'expression. Les Russes sont donc intervenus pour protéger leur Église. Je viens de parler d'Église, de dogme. Cela m'amène, dans le cours de mon raisonnement, à considérer un autre événement récent d'une nature bien différente, certes, que le drame tchécoslovaque, mais dont on a beaucoup parlé aussi. L'encyclique Humanae Vitae du pape Paul VI sur le contrôle des naissances. Comprenez-moi, je n'ai pas l'intention de comparer M. Brejnev à Paul VI, ni les communistes aux catholiques. Les uns et les autres en seraient à bon droit choqués. Mais je pense que le document pontifical peut éclairer notre réflexion. Depuis quelques années, très précisément depuis l'accession au souverain pontificat de Jean XXIII, l'Église est en plein rajeunissement, en plein aggiornamento, comme on dit à Rome. Le Concile a permis à tous ceux qui, solitaires dans leur diocèse ou dans leur abbaye, rêvaient d'une remise à neuf de l'Église catholique, de confronter leurs espérances et leurs expériences. Beaucoup de décisions y ont été prises, qualifiées à bon droit de libérales. Aussi, lorsque le pape Paul VI, il y a un mois, publia l'encyclique condamnant toutes les méthodes artificielles de contraception, ce fut un tollé. On parla de coup de frein et même de retour en arrière. Eh bien, je me demande si le pape pouvait faire autre chose que ce qu'il a fait. Le chef de l'Église tolère bien des innovations nécessaires dans le monde moderne. Les prêtres abandonnent l'incommode soutane pour le costume de pièce. Les fidèles entendent la messe dans leur langue plutôt que dans l'anachronique latin. On réforme l'index et la curie romaine. On met les évêques trop âgés à la retraite. Mais ce sont là les marbres et les stucs de l'édifice. Les changers ne gênent personne, bien au contraire. Mais le contrôle des naissances touche à l'une des pierres de soutènement sur lesquelles l'Église est construite. Le pape s'est d'ailleurs exprimé, on ne peut plus clairement, dans son encyclique, je le cite, « Dans la tâche de transmettre la vie, les conjoints ne sont pas libres de procéder à leur guise, mais ils doivent conformer leur conduite à l'intention créatrice de Dieu. L'Église n'a pas créé la loi morale. Elle ne saurait donc en être l'arbitre, elle en est seulement la dépositaire et l'interprète, sans pouvoir jamais déclarer licite une chose qui ne l'est pas. » Le prêtre qui consacre du pain ordinaire ne franchit pas la ligne. La chrétienne qui prend la pilule, elle, la franchit. Je reviens à l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie. Encore une fois, mais est-il besoin de le préciser, il s'agit de deux événements sans rapport direct l'un avec l'autre. N'allez pas me traiter, vous catholiques, de blasphémateurs et vous communistes de contre-révolutionnaires. Je ne crois mériter aucune de ces épithètes. Toute passion est absente de mon propos. L'opinion publique occidentale est révoltée par l'agression à laquelle les Russes viennent de se livrer contre le peuple tchécoslovaque. Les Occidentaux ont raison. Ceux qui ne ressentent aucune émotion sont des monstres. Mais M. Brejnev, lui, même s'il lui est désagréable, ce que j'ignore, d'employer ses chars contre des étudiants aux mains nues, a jugé qu'il ne pouvait pas, au point où en étaient arrivées les choses, risquer de voir s'effondrer l'édifice communiste. Je connais comme vous beaucoup de gens, vous appartenez peut-être vous-même à cette catégorie, qui jugent scandaleusement réactionnaire l'encyclique pontificale. Mais Paul VI a supposé qu'il n'ait pas pris sa décision de gaieté de cœur, a estimé impossible de porter dans l'Église catholique un coup de bélier qui risquait d'être fatal. Les communistes français qui ont protesté contre l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie ont fait preuve de courage. Les chrétiens qui contestent l'encyclique pontificale manifeste de l'indépendance. Mais je crains pour des raisons qui dépassent les scrupules moraux, très nobles, ou les commodités matérielles, très compréhensibles, que ni les uns ni les autres ne soient logiques avec eux-mêmes. De sources diplomatiques bien informées, ce sont les termes employés par les agences de presse, de sources diplomatiques bien informées, on apprend que l'Union soviétique a donné au gouvernement américain l'assurance qu'elle n'avait pas l'intention d'intervenir militairement en Roumanie. J'espère, comme tous les hommes libres, qu'il ne s'agit pas d'une de ces promesses faites à midi et oubliées le soir dont notre histoire contemporaine est pleine. Mais dans cette affaire, c'est le procédé que je trouve à la fois inquiétant et rassurant et qui, tout bien pesé, m'indispose. Rappelez-vous, le soir où les troupes soviétiques ont envahi la Tchécoslovaquie, traînant à la mode romaine quelques contingents d'alliés derrière leurs légions, le Kremlin prit soin d'en avertir le président Johnson et, à titre complémentaire, le général de Gaulle et M. Harold Wilson. Depuis 1956, lorsque M. Khrouchtchev se mit à casser du hongrois, les soviétiques ont fait des progrès. Aujourd'hui, ils préviennent. J'ai l'honneur de vous informer que nous entrons en Tchécoslovaquie. J'attache du prix à ce que vous sachiez que nous n'interviendrons pas en Roumanie. Le président des États-Unis, j'en suis sûr, apprécie cette marque de courtoisie. Certes, il a déclaré hier que c'était, je le cite, « avec le cœur gros » qu'il avait suivi et observé de près les événements. Pas de trop près, tout de même, il faut le dire. M. Lyndon Johnson n'a menacé l'URSS d'aucune représaille. Il ne le pouvait pas du reste, puisqu'il est entendu dans notre monde que boucher est maître chez soi. C'est cela que signifie la petite correspondance diplomatique échangée entre Moscou et Washington. Au Kremlin, on espère vivement que le jour où les États-Unis décideront d'aller remettre un peu d'ordre quelque part en Amérique latine, ils sauront rendre la politesse. Fini le temps où les marines américains débarquaient à Saint-Domingue sans crier gare pour y arranger leurs affaires. Que diable, on est entre gens civilisés. Il n'y eut pas de riposte soviétique à Saint-Domingue. Je ne suis même pas sûr que les représentants de l'URSS aient véhémentement protesté aux Nations Unies. À Moscou, c'était sans doute avec le cœur gros qu'on suivait les événements. Et depuis, croyez-moi, il n'y a pas plus légaliste, moins révolutionnaire que les partis communistes officiels d'Amérique latine. C'est cela, voyez-vous, la coexistence pacifique. C'est cela l'équilibre des grandes puissances. C'est cela la détente. Ceux qui pourraient se faire très mal ne se font pas de mal. Nous sommes assurés ainsi d'éviter un effroyable affrontement atomique. Mais nous ne sommes assurés que de cela. Quand je dis « nous », comprenez-moi bien, je voulais dire les Tchécoslovaques ou les Dominicains. Il n'existe aucun moyen pour un pays appartenant au domaine américain d'embrasser la foi communiste, ni pour un pays appartenant à la propriété soviétique d'adopter le régime démocratique occidental. Peut-être le parallèle que je viens de tracer entre la Tchécoslovaquie et Saint-Domingue vous choquera-t-il. C'est peut-être parce que nous appartenons à ce même monde occidental que les Américains, parce que les événements qui se produisirent dans cette île des Antilles sont déjà anciens, parce que ce pays est plus éloigné de nous que la Tchécoslovaquie, parce qu'il ne compte que 3 millions d'âmes. Mais abandonnons tout cela. Ne croyez pas que je cherche, comme on dit vulgairement, à noyer le poisson. J'essaie de mettre un peu d'équité dans notre indignation. Aussi, j'ajoute le Biafra. Là, le cynisme éclate en pleine horreur. Le peuple des Igbo, chrétiens, victime depuis l'indépendance de la colonie britannique du Nigeria, des persécutions des Haoussa, musulmans, crut trouver le salut dans la sécession. Depuis plus d'un an, le gouvernement de Lagos, le gouvernement nigérian, où dominent les Haoussa, a entrepris l'extermination systématique des Igbo. Plus d'un million d'êtres humains ont été assassinés et le génocide continue au rythme de 6 000 morts par jour. Il y a, paraît-il, de très riches gisements de pétrole au Biafra. J'ignore si c'est pour ce noble motif que des cadavres d'enfants servent de pitance aux vautours et aux fourmis rouges et que l'armée du Nigeria dirige les canons de sa défense antiaérienne sur les rares avions qui cherchent à forcer l'atroce blocus pour apporter un peu de ravitaillement à un peuple de morts vivants. Peu importe au fond le motif, les choses sont ce qu'elles sont, et elles sont affreuses. Parlons clairement. Le gouvernement britannique, qui proteste vertueusement contre l'agression soviétique en Tchécoslovaquie, fait cause commune avec le gouvernement de Moscou pour pour ravitailler en armes les Nigérians contre les Biafrais. Le drame de ce petit peuple noir persécuté nous a émus quelques jours. Tous les hommes de cœur ont été scandalisés, écœurés, révoltés. Mais avouons-le, l'extermination des Ibos nous a moins bouleversés que l'entrée des forces soviétiques à Prague. On a pourtant moins tué à Prague qu'à Aba. Alors, malgré nous, se fait une sélection dans nos sentiments. Saint-Domingue est loin, et le Biafra davantage encore, géographiquement et affectivement. La Tchécoslovaquie est à nos portes. Son histoire est mêlée à la nôtre, de mille façons, depuis très longtemps. Et c'est peut-être parce que les Français de 1938 ont ignominieusement abandonné ce pays à l'Allemagne de Hitler que les Français de 1968 le voient avec plus de tristesse encore tomber aux mains de ses nouveaux occupants. Alexandre Dubček nous est plus proche que Juan Bosch et beaucoup plus encore que le colonel Ojukwu. Le Biafra n'appartient ni à la zone d'influence russe, ni à la zone d'influence américaine. Ce n'est même pas le Moyen-Orient, source permanente de soucis, en même temps que terrain de manœuvre pour les grandes puissances. C'est de la savane et de la forêt, des tribus et des religions ennemies, c'est un autre monde. Alors le silence tombe sur les chancelleries, tandis que le trafic officiel des armes, honte de notre civilisation, se poursuit fructueusement. Inutile de décrocher le téléphone rouge, inutile de déranger dans la nuit un ambassadeur pour l'informer qu'un peuple se livre à un génocide. Quant aux Nations Unies, elles ne s'en préoccupent même pas. Où veut-il en venir? Voilà peut-être ce que vous vous demandez. Nulle part. J'ai pensé, ou plutôt senti tout simplement, que celui qui, comme moi, a la chance d'avoir devant lui un micro et de s'adresser à des êtres humains, celui-là, de temps en temps, a le droit de crier au scandale, au risque de rompre avec les usages. Vous savez bien, les usages de notre société policée, cultivée, civilisée, que ne trouble très longtemps ni le souvenir d'une nation qui perd sa liberté, ni celui d'un peuple qu'on assassine.